Bonsoir tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. On est jeudi, on retrouve Kader Youb pour son rendez-vous politique. Salut Kader.
Bonjour Rémi.
Alors, un petit contretemps exceptionnel. Vous savez, il y a une grève des transports aériens. Et du coup, notre invité n'a pas pu être là, ici, au 5 boulevard Garrison, dans notre studio, autour de cette table. Mais elle est avec nous par téléphone. Je te laisse présenter Valérie Rabault, Kader Youb.
Oui, bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, bien que nous ne soyons pas face à face.
Merci pour votre invitation. Et puis, heureusement qu'il y a la technologie qui permet de rattraper ou de pallier quelques petits désagréments.
On va faire en sorte que cette technologie tienne jusqu'au bout de l'émission. Vous êtes donc.
Elle va tenir.
Vous êtes députée de Tarn-et-Garonne.
Tout à fait.
Parti socialiste et vice-présidente de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Vous aviez, Valérie Rabault, 8 ans lorsque la gauche a accédé au pouvoir, 8 ans lorsque Pierre Mauroy a été nommé à Matignon. Peut-être étiez-vous aux Invalides pour l'hommage national qui lui a été rendu. C'était l'homme de quoi, selon vous, Valérie Rabault, Pierre Mauroy?
Alors, Pierre Mauroy, moi, ce qui, le souvenir que j'en ai, c'est d'un monsieur très très calme et d'une voix absolument savoureuse, chaleureuse, chaude. Et pour ma génération, c'est-à-dire qui effectivement avait 8 ans quand François Mitterrand a accédé au pouvoir, c'est un pilier. C'est-à-dire que à chaque fois, vous savez, il peut y avoir des discussions, des petites divergences. Pierre Mauroy a toujours été un pilier. Et ça, c'est un symbole très très fort que je garde de lui. Mais plus que tout, alors évidemment on peut discuter des choix politiques qu'il a fait, des options qu'il a prises, c'est sa voix. Une voix incroyablement chaleureuse, très grave, et qui, quand on est jeune militant, qui impressionnait vraiment. Et puis Martine Aubry a dit quelque chose d'extraordinaire mardi lors de l'hommage qui a été rendu, alors pour le coup, pas celui aux Invalides, mais celui qui a été rendu à Solferino, il a dit « pour avancer en politique, il faut avoir la nuque raide ». C'est-à-dire pas dévier de son cap. Et elle a dit Pierre Mauroy avait la nuque raide. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vraiment ce qui incarne ce grand monsieur.
Vous parliez des options politiques qu'il avait mises en place et qu'il avait prises, Pierre Mauroy. Les retraites, Valérie Rabault, le chef de l'État n'est pas le premier à promettre une réforme des retraites qui serait à la fois courageuse et juste et qui rétablirait l'équilibre financier du système. Alors il y a ce rapport Mauroy qui sera rendu demain. 4 réformes sont intervenues depuis 1993. Pourquoi aucune d'elles n'a-t-elle pu ramener le système à l'équilibre?
Parce qu'il y a deux choses dans la réforme des retraites. Il y en a un certain nombre qui ont fait des avancées. Mais il y a le fait que là, on va avoir 15 ans. On a 15 ans devant nous, il va falloir serrer les fesses. Parce que, pardonnez-moi l'expression, parce que la génération du baby boom, c'est-à-dire typiquement la génération de mes parents, ceux qui sont nés juste après la guerre, arrive à la retraite, à aujourd'hui, entre 65 et 70 ans, est à la retraite aujourd'hui. Et après, les Français ont fait moins d'enfants que pendant cette génération du baby boom. Donc il y a 15 ans, qui sont véritablement les 15 ans où on a un pic, c'est-à-dire un besoin de financement des retraites beaucoup plus important que ce qui permet d'assurer les générations qui travaillent aujourd'hui. Donc c'est véritablement cette question, particulièrement cette question des 15 ans, qui doit être traitée.
Le gouvernement devrait actionner, selon les informations qui fuitent, hein, les fameux curseurs, la bosse démographique, le départ, l'âge de départ, le taux, la durée des cotisations. Plutôt que de bouger ces curseurs, il y a un manque d'ambition globale, selon certains économistes, sur cette réforme à venir.
Écoutez,
est-ce que vous êtes au courant de ce rapport?
Je suis toujours fascinée, et ça fait un an que je suis élue, et j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de commentaires sur des réformes qui devaient avoir lieu, et des commentaires qui se sont avérés faux après. Donc je suis toujours fascinée de voir que des gens peuvent commenter des textes ou des propositions de réformes qu'ils ne connaissent pas. Ça fait vraiment partie des choses qui me fascinent. Le rapport Mauroy n'est pas sorti, il sort demain.
Vous êtes au courant de ce rapport? Est-ce que vous en avez des grandes lignes, en tout cas, vous?
Et il sera donné demain au Premier ministre, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura effectivement une communication là-dessus.
Est-ce qu'on
après,
peut dire...
Je crois
oui, excusez-moi.
Je crois que pour les retraites, ce qui est vraiment crucial, c'est la justice. Le président de la République avait pris un engagement fort pendant sa campagne, c'était de dire les gens qui ont commencé à travailler avant 18 ans ou à 18 ans et qui ont enregistré 41,3 annuités de cotisation pourront partir à 60 ans. Ça a été fait. Ça a été fait dès juin dernier, c'est très important, notamment, de prendre en compte la pénibilité, ce qui n'a pas été le cas de la réforme Fillon. La pénibilité, quand vous travaillez sur un chantier de travaux publics, c'est pas tout à fait la même chose que quand vous êtes député, par exemple. C'est pas la même pénibilité. Et moi quand j'ai commencé à travailler, où j'ai été conductrice de travaux, où j'ai vu effectivement mes collègues qui étaient au marteau-piqueur, qui travaillaient dans des conditions difficiles, je peux vous assurer que c'est pas du tout la même pénibilité que lorsque je me retrouve aujourd'hui député. Donc ça, c'est un axe qui va être primordial dans les choix qui seront faits.
Valérie Rabault, pour redonner du dynamisme et du punch, et la France souffre, vous le savez, le Tarn-et-Garonne aussi, pour redonner du dynamisme et du punch, c'est Pierre Moscovici qui le dit, l'État pourrait céder des participations dans les entreprises publiques pour débloquer l'investissement, et en ayant recours, c'est votre collègue Karine Berger qui le proposait à l'assurance vie des Français. Est-ce le début des privatisations qu'on nous annonce?
Non, c'est pas un début de privatisation, il n'y a pas d'acte de privatisation.
On parle de cession d'actifs que l'État posséderait dans des entreprises comme Orange, par exemple.
C'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Il faut toujours écouter les choses précisément. C'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Le Premier ministre a dit, quand on est largement actionnaire, comme l'État l'est dans un certain nombre de structures, il dit on peut envisager d'en céder 1 ou 2%. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de privatiser. C'est-à-dire que vous gardez le contrôle, vous êtes l'actionnaire qui est décisionnaire, et ça, c'est très important.
Oui, mais alors, c'est le début. Il faut, si on appelle un chat, c'est le début de la privatisation, lorsqu'on cède des actifs.
Non, mais une privatisation, vous perdez le contrôle quand vous avez moins de 50% des actions de l'entreprise. Quand le Premier ministre dit on peut céder 1 ou 2% pour financer l'investissement et certainement pas pour aller renflouer le déficit, il n'y a pas du tout de privatisation là-dedans. En revanche, il y a la volonté extrêmement forte de faire de l'investissement. Parce que ce qui est le péché originel de ce pays depuis 15-20 ans, c'est que la France n'a pas suffisamment investi à la fois dans son industrie pour être capable d'inventer les produits de demain. Et ça, c'est crucial. C'est aussi cette réponse que veut formuler le rapport Berger-Lefebvre, qui dit les Français épargnent beaucoup, c'est vrai, on est un peuple qui mettons beaucoup d'argent à la banque, ou dans l'assurance-vie, ou dans d'autres produits, et il faudrait que cet argent qui est économisé, c'est 1450 milliards, l'assurance-vie, soit un peu plus orienté sur le financement des entreprises. Et donc, elle propose un certain nombre de dispositions qui, je pense, pour certaines, seront reprises dans le cadre de la loi de finances qui sera votée à l'automne 2013, pour faire en sorte que, comme ces produits d'assurance vie bénéficient aujourd'hui d'un certain nombre d'avantages fiscaux, notamment si vous les gardez, si vous les gardez 8 ans, on garde la totalité de ces avantages fiscaux, mais on les redistribue un petit peu différemment.
Rémi,
notamment pour orienter l'épargne pour aller financer les entreprises, de Tarn-et-Garonne, financer les entreprises françaises.
On aura noté, pas de privatisation. Rémi vous pose une question.
Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
On parle de l'emploi, de l'entreprise et de la toute petite entreprise, qui est sur le feu en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez donc du projet de loi de Sylvia Pinel sur la réforme des auto-entrepreneurs?
Alors, il y a deux sujets là-dessus. Il y a effectivement, les auto-entrepreneurs existent, ils représentent, ils sont 1 million en France. Tous n'engrangent pas de chiffre d'affaires. La question qui se pose, c'est qu'effectivement, en termes de cotisation, sur le travail notamment, ils cotisent moins. Donc l'idée, ça c'est le premier point. Et puis pour le BTP, les artisans du BTP plus particulièrement, il y avait aussi un problème que, notamment je pense à un sujet qui est particulier, quand vous êtes artisan en BTP, vous avez une assurance qui s'appelle la décennale, c'est-à-dire qui vous couvre si jamais il y a des malfaçons sur le bâtiment que vous venez de construire. Bon. Très souvent, les auto-entrepreneurs ne la souscrivaient pas pour ce qui concerne le secteur du BTP. Donc ça crée une distorsion de concurrence au sein de gens qui font à peu près la même chose. Donc l'idée qui est de dire il faut séparer à la fois qui peut être une activité secondaire ou ce qui peut être l'idée de se dire je mets le pied à l'étrier, je commence, je crée ma propre entreprise et j'avance, ça c'est une bonne démarche. C'est-à-dire que il n'est pas question de casser tout de suite, enfin de casser le statut d'auto-entrepreneur, mais il est question qu'il y ait une justice entre, par exemple, je prends le BTP, le cas du BTP, entre un artisan qui lui paiera toutes ses cotisations sociales et un entrepreneur qui ferait la même chose et qui ne serait pas assujetti aux mêmes cotisations sociales.
Oui, alors c'est juste que l'impression que ça laisse quand même, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de dossiers là-dessus, de recherches, que ça n'a pas été vraiment travaillé pour savoir si réellement il y avait ou pas une concurrence déloyale. Et on a un peu l'impression que ça a été quand même un travail plus de lobbyiste que d'une commission qui aurait vraiment planché sur l'histoire, quoi.
Alors, de toute façon, il faut bien savoir une chose, c'est que la partie qui devra être modifiée, c'est une partie législative. À chaque fois que vous passez devant le Parlement, vous avez un rapporteur. Donc, moi, je suis rapporteur de texte de loi. Quand vous êtes rapporteur, vous, et je vais vous le dire, par exemple, pour un certain nombre de sujets, j'ai passé plus de 100 heures en audition. Donc, quand vous faites des auditions, vous recevez tout le monde. Et c'est sur les parties législatives, c'est le Parlement qui vote. Donc, vous avez un rapporteur qui fait un travail de fond, qui reçoit tout le monde. Moi, je prends le cas du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont je suis rapporteur pour la commission des finances. Ce sont plus de, ça dépasse les centaines d'heures d'audition. Où effectivement, on accueille tous les acteurs pour mettre sur la table le pour, le contre, les avantages, les inconvénients. Bon, ça c'est pour la partie parlement. C'est-à-dire que la partie qui devra passer devant le parlement dans le cadre du projet de loi de finances, elle aura ce traitement-là. Après, il y a la partie qui est menée évidemment par la ministre, qui a reçu, j'ai cru comprendre qu'elle avait reçu la totalité à la fois des associations d'auto-entrepreneurs, évidemment la CAPEL, elle les a reçues plusieurs fois, encore la semaine dernière, donc j'imagine que tout ça a été mis sur la table.
Un petit peu de pub, Valérie Rabault, restez avec nous, il n'y en a pas pour longtemps, hein. Deux petites minutes, à tout de suite.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Du 28 juin au 1er août, venez fêter la 32e édition du festival Jazz à Montauban et en Tarn-et-Garonne. Au programme, Madness, Ibrahim Maalouf, Mélodie Gardot, Raphaël Gualazzi et bien d'autres artistes au Jardin des Plantes de Montauban ainsi que dans certains des plus beaux sites historiques du département. Restauration toute la soirée avec la bodega ouverte dès 19h. Réservez vos places pour Jazz Montauban dans vos points de vente habituels et sur jazzmontauban.com.
Du 5 au 28 juin, 20e Open de Montauban de tennis. Inscrivez-vous. Le tournoi régional débute le 5 juin avec les épreuves de double dames mixtes et messieurs. Date limite d'inscription le 3 juin. Dès le 12 juin, début des épreuves de simple. Nombreux tableaux au programme pour les jeunes et moins jeunes. Inscrivez-vous sans tarder. Pour tout renseignement et inscription, connectez-vous sur le site internet du club atm.tennisweb.fr ou par téléphone au 05 63 03 30 38.
Tu viens en course de choix avec moi dimanche? C'est gratuit pour les enfants avec plein d'animations offertes. Balade à poney, maquillage, grand goûter. Et en plus, les chevaux, on les voit de très près. Ils sont beaux!
Dimanche 16 juin, venez faire la fête sur l'hippodrome de Montauban dès 14h. Spectacle pour toute la famille. Ça va bouger? Sur l'hippodrome de Montauban dès 14h. 05 61 49 63 63. 05 61 49 63 63.
En juin sur CFM Radio, tentez de gagner une magnifique plancha Hainaut tradition de 60 cm, origine France, en fonte émaillée 3 couches, garantie 10 ans, d'une valeur de près de 500 €, offerte par notre partenaire, les Maîtres du Feu à Montauban. Rendez-vous sur cfmradio.fr, postez votre recette barbecue ou plancha et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner la plancha Hainaut tradition de 60 cm, offerte par les Maîtres du Feu. Préparez l'été en beauté avec CFM Radio et les Maîtres du Feu. Avenue Chamier à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous excellence.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Vous écoutez CFM, c'est le rendez-vous politique de Kader Youb. L'invité ce soir, c'est Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Garonne pour la première circonscription. Kader.
Oui, Valérie Rabault.
Oui, allô?
Oui, vous êtes toujours là. Les emplois d'avenir, ils ont du mal à trouver preneur. Pourquoi, d'après vous, ça démarre très doucement?
Je ne vous entends plus du tout. Je vous ai perdu, je ne vous entends plus du tout.
Alors moi, je vous entends très bien. Je vous demandais, les emplois d'avenir, ils ont du mal à trouver preneur. Pourquoi, d'après vous?
Allô?
Allô? Alors, on va préciser que Valérie Rabault, voilà, elle est en aérogare. Hein, elle est à l'aéroport de Toulouse, de Paris. Et il y a peut-être un petit orage sur la ligne, quelque part par là.
Le temps de la rappeler.
On va la rappeler, voilà. Voilà, il n'y a pas de problème. On va à nouveau pouvoir s'entretenir avec Valérie Rabault au sujet de donc ses emplois d'avenir.
Valérie Rabault?
Oui, bonjour.
Bon,
je vous avais perdu.
Les emplois d'avenir, Je vous demandais s'ils ont du mal à trouver preneur. Pourquoi, d'après vous, ça démarre très doucement, ce dispositif?
Alors, sur les contrats d'avenir, les emplois d'avenir, le Tarn-et-Garonne est en tête de Midi-Pyrénées.
Oui.
Puisque nous avons plus de 150 emplois contrats qui ont été signés. Nous en avions 470 à faire d'ici fin 2014, donc sur deux ans. Donc le rythme pour le Tarn-et-Garonne est très bon. Et je profite de votre antenne pour remercier l'ensemble des maires, l'ensemble de tous les acteurs des collectivités locales qui jouent le jeu parfois, qui savent qu'il faut effectivement pour les jeunes, et entre autres les jeunes, enfin notamment les jeunes qui n'ont pas de qualification, il faut qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier, parce que commencer sa vie active en étant au chômage, c'est difficile et c'est pas ce que la société doit offrir à la jeunesse. Donc le Tarn-et-Garonne est en tête de Midi-Pyrénées en relatif, avec plus de 150 emplois d'avenir qui ont été signés. Sur la question globale de la France, c'est-à-dire sur les 100 000 qui doivent être signés en 2013, donc véritablement, ça a un effet. Il y a effectivement une question qui se pose sur la qualification, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs, qui, notamment des collectivités locales, qui seraient partantes pour embaucher, mais qui voudraient un niveau de qualification un peu plus important. Donc elles demandent des dérogations qui peuvent être accordées au cas par cas. Donc effectivement, ça fait partie du point, c'est ce point-là qui pourra être discuté. Mais c'est vrai que l'objectif de départ des emplois d'avenir, c'est de dire les jeunes sans qualification qui sortent du système scolaire, ce sont eux qui effectivement peinent le plus à trouver un emploi. On leur permet de mettre le pied à l'étrier avec un CDI ou un CDD de 3 ans. Et qui comporte différentes étapes à valider de formation. Donc ça, c'est très important.
Les emplois d'avenir en tête pour Midi-Pyrénées, mais le Tarn-et-Garonne aussi qui bat des records en termes de taux de chômage. Est-ce que d'après vous, les emplois industriels...
Faut toujours regarder les choses de manière dynamique. Quand la France va mal et quand elle est en crise, effectivement, le Tarn-et-Garonne a un taux de chômage un peu plus élevé que la moyenne nationale. Quand la France va bien, comme c'était le cas quand Lionel Jospin était au pouvoir, que le chômage avait baissé, vous pouvez regarder les chiffres, c'est sur le site de l'INSEE, donc de l'Institut National de la Statistique. Donc entre 98...
chiffres à pondérer avec les emplois jeunes, hein, Madame Rabault.
Entre 98 et 2001, oui, mais ça, c'est la même chose pour toute la France, entre 98 et 2001, le Tarn-et-Garonne a eu un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale. Et ça, cette dynamique-là, ce qui fait qu'effectivement, quand on est un département, on a 245 000 habitants, on est un département considéré comme petit par certains, c'est qu'effectivement, on est très sujet à la dynamique des autres, c'est-à-dire aux échanges, à la conjoncture globale du pays. À la limite, une région comme la région Île-de-France peut presque vivre sa vie toute seule. C'est pas le cas des départements qui sont plus petits. Donc c'est pour ça que quand la France va mal, on va parfois plus mal qu'elle. Quand la France va bien, on va mieux qu'elle. Et c'est éprouvé entre 1998 et 2001, où effectivement le département avait un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale.
L'inversion du chômage à la fin 2013, comme l'a promis François Hollande, vous y croyez, Valérie Rabault?
Alors, le chômage, il y a eu deux, trois signaux, des prémices qui sont un peu passés inaperçus, j'avoue, qui ont été dévoilés par les différents instituts qui surveillent les données la semaine dernière et la semaine d'avant. Il y a deux facteurs positifs. La production industrielle est repartie, plus 1,2% au mois d'avril. Et quand on regarde aussi les tendances qui se passent au niveau de l'intérim, parce que effectivement, une entreprise qui manque de visibilité ou qui ne sait pas trop comment les choses vont se passer a plutôt tendance à créer de l'emploi, en tout cas au début, par de l'intérim. Et puis on voit que quand la crise arrive, c'est d'abord l'intérim, la destruction d'emploi, elle se passe d'abord sur l'intérim. Et ce qu'on voit depuis le mois d'avril, c'est que l'intérim repart.
Deux questions.
Alors, ce sont des petites prémices, hein, évidemment, c'est pas très spectaculaire, mais voilà. C'est effectivement quand l'intérim repart, et c'est ce qu'on voit effectivement dans tous les cycles économiques de notre pays.
Deux questions avant de passer au chapitre local, Madame Rabault. Les 20 et 21 juin prochains, il y aura une conférence sociale baptisée, c'est le Premier ministre qui l'a dit, une grande conférence sociale pour l'emploi. Est-ce qu'il y aura des annonces et des mesures exceptionnelles pour l'emploi, et ici particulièrement pour le Tarn-et-Garonne?
Alors nous, écoutez, moi je ne vais pas dévoiler, je suis respectueuse des institutions, donc je laisse le Premier ministre s'exprimer sur ce qu'il souhaite dire.
Quelques pistes, peut-être
Non, mais vous ne ferez pas... je suis très respectueuse des institutions. Quand le Premier ministre décide de s'exprimer, c'est lui qui s'exprime et personne d'autre à sa place. Nous avions fait, nous aussi, une conférence sociale en Tarn-et-Garonne, au mois de juillet. Et je profite de votre antenne pour vous dire que nous allons la réitérer.
Très bien. Le Parti Socialiste vient de choisir sa tête de liste pour les prochaines élections municipales 2014 de Montauban. Roland Garrigue.
C'est votre suppléant.
C'est votre suppléant. Et c'est une affirmation, en tout cas, que Madame Salomon, vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, membre du Parti Radical de Gauche, écrit sur son blog. Quel est votre avis?
Mon avis est très simple. Je suis aussi première fédérale, donc responsable du Parti Socialiste dans ce département. Le Parti Socialiste, contrairement à d'autres, notamment nous, à droite, qui peinent avec la démocratie interne, le Parti Socialiste désigne tous ses candidats par vote, soit par vote via des primaires, comme nous l'avions fait pour l'élection présidentielle, et c'est une option qui n'est pas exclue, soit par vote de tous ses militants. Il y a un calendrier extrêmement précis qui est fini par le Parti Socialiste National, et qui fait que les désignations sont définies, programmées plus exactement, pour la rentrée de septembre. Donc par conséquent, l'information que vous venez de divulguer sur votre antenne,
c'est une information qui est donnée par Dominique Salomon.
Comme vous en faites relais, je redis ce que je viens de dire. L'information que vous venez de divulguer n'est pas la bonne.
Donc,
il y aura des primaires, il y aura quelque chose ou pas?
Alors, là-dessus, nous avons, puisque nous sommes, encore une fois, j'insiste, la démocratie interne, d'autres ont du mal à la pratiquer, mais nous, ça fait longtemps que nous la pratiquons, pour effectivement être en mesure de désigner nos têtes de liste. Donc nous avons proposé aux militants de savoir s'ils souhaitaient avoir des primaires ouvertes, c'est-à-dire que tout le monde peut aller voter et désigner le candidat du Parti Socialiste, ou des primaires fermées. Les militants, effectivement, ont fait le choix de dire la force de la gauche, c'est quand elle est unie dans toutes ses composantes, qui va du Parti communiste au Front de gauche, avec les Verts. Donc effectivement, là-dessus, s'il y a le souhait d'avoir des candidats qui veulent se mesurer tous ensemble sur une primaire, ce sera une option qui sera... Sinon, il y aura une désignation interne plus classique, qui n'empêche pas d'ailleurs, et moi je la souhaite très très fort, l'union de la gauche pour les élections municipales de 2014.
Ok, donc moi ce que je retiens de ce petit passage, Valérie Rabault, c'est que donc vous démentez ce qu'affiche Dominique Salomon sur son site internet, à savoir que le PS a choisi Roland Garrigue pour, à la vue de sondage, donnant Roland Garrigue gagnant de 52% contre Brigitte Barège au second tour, à 48%.
Il n'y a pas eu de désignation ni de vote qui auront lieu dans quelques temps.
Non. Valérie Rabault, est-ce que vous excluez, vous, au nom du principe de non-cumul des mandats, de vous présenter à ces municipales de 2014 à Montauban?
Bah écoutez, moi je n'exclus rien du tout, puisque le non-cumul, ça suppose de ne pas avoir deux mandats en même temps. Pour l'instant, j'observe que je n'ai qu'un mandat, ce qui me va très bien. Si on veut faire les choses bien, être député, c'est un boulot à temps plein. C'est à la fois voter des lois. Tout à l'heure, vous le signalez, vous disiez il faut effectivement, quand on propose une mesure législative, pouvoir en saisir tous les aspects. Ça demande beaucoup de temps de travail. Par exemple, pour la loi bancaire, j'ai passé 100 heures en audition. C'est un chiffre que vous pouvez vérifier, mesurer. Ce sont des lois qui impactent la vie de nos concitoyens. Donc effectivement, il faut en saisir tous les aspects et le faire bien. Si vous allez juste à l'Assemblée nationale le mardi pour appuyer sur un bouton, comme on vous a dit d'appuyer, c'est pas le rôle d'un député. Et en tout cas, c'est absolument pas ma conception des choses. Après, il y a évidemment le travail en local. Moi, j'ai reçu depuis que je suis élue plus de 300 personnes. Mes assistants parlementaires en reçoivent aussi. On débloque des projets de financement. Donc, je suis allée à la Caisse des dépôts pour faire aussi débloquer des projets de financement pour les collectivités locales. Ça, c'est l'action concrète pour le terrain. Donc effectivement, j'ai toujours dit, et je le répète encore à votre antenne, je suis pour le non-cumul des mandats. Ça me paraît beaucoup plus simple pour la démocratie.
Vous serez tout à l'heure à 19h à Montauban à l'inauguration de la nouvelle maternité de la clinique Boyer.
Écoutez, alors du coup, comme j'ai retardé pour vous voir, vous avoir à l'antenne, ça va être un peu compliqué, mais je vais tenter de me presser.
Et alors dernière question, mais qui n'est pas sur le local, mais j'ai lu tout à l'heure en préparant cette émission que un ex-cadre d'une banque suisse, Pierre Condamin Gerbier, dispose d'une liste d'une quinzaine de noms d'anciens ou actuels ministres, comme Christophe Cahuzac.
Jérôme
Cahuzac, pardon, avait des comptes en Suisse. Vous en avez des comptes en Suisse?
Non.
Mais qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait pas mal au ventre à force d'entendre politique et d'entendre ça tous les jours?
Je l'ai pas lu tout. Je l'ai pas lu comme vous. Je l'ai entendu ce matin à la radio. Effectivement, je trouve ahurissant que les politiques qui donnent, qui votent la loi, qui sont censés lutter contre l'évasion fiscale, puissent avoir des comptes en Suisse. Je rappelle que les comptes en Suisse, ce sont des comptes non déclarés qui échappent à l'impôt, et ça, c'est scandaleux. La première règle de citoyenneté, c'est passe aussi par l'impôt.
Et qui ont permis de financer aussi les partis politiques au passage, hein, visiblement, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se traîne.
J'ai entendu la même chose que vous, moi je n'en sais pas plus. Je sais que François... Donc là, nous allons débattre d'une loi sur la transparence pour les élus. Moi, je suis favorable à une grande transparence pour les élus. Et c'est ce que je voterai. Et j'observe que sur les rangs de la droite, ce n'est pas forcément très partagé. Mais on verra le vote. On verra le vote parce qu'il y a les discussions, mais ce qui compte, effectivement, c'est ce qu'on vote.
Allez, dernière question très rapide.
Valérie Rabault, nous avons noté donc que vous n'excluez rien pour les municipales 2014 à Montauban. Hein? C'est bien ça?
Il y a une désignation qui se fera et pourront être candidats tous ceux qui le souhaitent.
Brigitte Barège, qui sera peut-être votre opposante principale l'année prochaine pour les municipales, vous reprochez de ne pas avoir publié votre revenu, votre feuille d'imposition. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre?
Mais je vais lui répondre ce que je lui ai déjà répondu. Moi, j'applique la loi. Je vous constate que si les amis de l'UMP ne sont pas favorables pour certains à voter la loi sur la transparence financière, moi j'applique la loi et je la voterai surtout. Je ferai partie de ceux qui voteront la loi sur la transparence financière pour les élus.
Merci beaucoup Valérie Rabault d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Merci Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Garonne pour la première circonscription et bien sûr pour le Parti Socialiste d'avoir été l'invité de Kader Youb. La semaine prochaine, c'est l'autre député du département, dis donc, qui sera à ce micro.
Jacques Moignard.
Ce sera Jacques Moignard, il sera là, à moins qu'il soit lui aussi retenu. Non, c'était tout à fait exceptionnel, il y avait la grève, c'est pour ça. Normalement, c'est ici dans les studios que ça se passe. Merci Valérie Rabault, à bientôt. Salut Kader.
Merci.
Merci Kader. À la semaine prochaine, CFM, il est 17h30. CFM.